Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Presidency.
Mr. President.
President.
On dit du président des États-Unis qu'il est l'homme le plus puissant du monde, qu'à lui tout seul, il peut faire chavirer la planète depuis son bureau ovale. Tout l'été, sur France Inter, c'est là que nous vous emmenons, à la Maison Blanche, à la rencontre de 8 présidents américains face à l'exercice du pouvoir. Vous ferez connaissance avec des hommes brillants, des fades, des vulgaires, de grands stratèges politiques, des indécis. L'histoire a presque oublié certains d'entre eux, d'autres ont encore leur visage sur les billets de banque. Mais ils ont un point commun. En incarnant à un moment l'histoire de leur pays, ils ont aussi bouleversé l'histoire de la fonction présidentielle. Chacun de ces hommes, à sa manière, nous dit aussi qui est l'actuel président des États-Unis, Donald Trump.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique. Mr. President. Fabienne Synthès sur France Inter.
Aujourd'hui, épisode 7, Lyndon Johnson, président maudit. J'aurais volontiers donné tout ce que j'ai pour ne pas être ici aujourd'hui. 5 jours après la mort de John Kennedy, ce sont les mots de Lyndon Johnson devant le Congrès réuni en session spéciale. Lyndon Johnson, arrivé au pouvoir sur l'une des plus grandes tragédies américaines, aurait pu rester dans l'histoire comme un des grands présidents des États-Unis. Le pays lui doit la première assurance maladie, lui doit la loi sur les droits civiques de 1964 et celle sur le droit de vote des Noirs l'année suivante. Johnson est un rustre, vulgaire, mais c'est aussi un homme qui toute sa vie luttera contre l'injustice sociale. C'est le Vietnam qui a tué sa présidence, il s'y est entêté, il s'y est embourbé, il s'y est perdu, il le regrettera toute sa vie. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Notre professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, c'est vous qui nous accompagnez pendant toute cette traversée américaine, tout cet été. Corentin, j'ai envie de commencer comme ça. Encore un président arrivé sur une tragédie, encore un président arrivé sur un prédécesseur assassiné. Ça commence à faire une sacrée liste.
Oui, c'est vrai que parmi tous les présidents que nous avons rencontrés cet été, beaucoup sont arrivés sur l'assassinat de celui qui avait été élu avec eux sur le ticket. On se souvient de Chester Arthur, Theodore Roosevelt, et désormais, effectivement, Lyndon Johnson. Alors évidemment, c'est plus connu dans le cas de Johnson, puisque c'est l'assassinat de John Kennedy qui est devenu une véritable tragédie nationale contemporaine. Et surtout, Johnson était présent, ce qui a ajouté au drame, était présent sur le lieu de l'assassinat.
Deux voitures derrière, on le verra dans le récit.
Exactement, et vraiment, on comprend que pour lui, ça a dû être un moment extrêmement pénible à vivre.
Alors, en revanche, ce qu'on a vu avec les précédents, c'est que ceux qui se retrouvent à la présidence sont un peu perdus dans la fonction, parce qu'ils n'étaient absolument pas destinés à devenir président. C'est pas le cas de Lyndon Johnson. Pour le coup, lui, préparé, il l'était.
Oui, alors il était absolument préparé, puisqu'il avait même voulu être président à la place de Kennedy, dont il était le rival en 1960. C'était un homme qui, durant toute sa très longue carrière au Congrès, puisque c'est sans doute le président qui a passé le plus de temps au Congrès avant d'accéder à la Maison Blanche, il pensait à cette ultime étape. Et donc, il avait eu le temps de projeter ce qu'il voulait faire, sauf que il aurait voulu le faire par lui-même et pas en prenant la place de quelqu'un d'autre.
C'est peut-être ça d'ailleurs sa grande différence avec Kennedy, une maîtrise des rouages du Congrès, c'est ça qui lui permettra peut-être, et c'est ce qu'on verra, d'avoir des résultats que Kennedy n'a pas eu avant lui.
Oui, c'est ce qui reste aujourd'hui de la présidence de Johnson, son grand bilan intérieur qui est absolument remarquable et qui n'est sans doute égalé en termes d'héritage que par celui de Franklin Roosevelt, et il l'a obtenu parce qu'il était le maître des arcanes du Congrès. Il était connu pour son fameux traitement, c'est-à-dire ce qu'il arrivait à obtenir de chaque élu en le cajolant, en lui promettant des rétributions pour sa circonscription.
Ou en le menaçant.
Ou en le menaçant parfois. C'est vrai qu'il pouvait passer à la méthode brutale quand ça n'allait pas assez vite. Mais en tout cas, il avait une maîtrise du jeu parlementaire qui était sans égale.
Allez, Corentin, on se retrouve évidemment tout de suite. Lyndon Johnson, président maudit. Un récit documentaire écrit par Adrien Cara, assisté de Rebecca de Nantes et Claire Tesser, réalisation Fabrice Laigle. La photo est tellement célèbre qu'elle n'a plus besoin de légende. Nous sommes dans Air Force One, le 22 novembre 1963, sur l'aéroport Love Field de Dallas. Jackie Kennedy, elle regarde dans le vide, une mèche de cheveux barre son visage, elle n'a pas voulu se changer. Elle porte encore ce tailleur rose qu'elle avait choisi pour la parade dans les rues de Dallas. Il est maculé de sang et même de bouts de cerveau. À sa droite, Lyndon Johnson prête serment. John Kennedy est mort depuis seulement 98 minutes. Tout ce qui précède, depuis l'arrivée du corps sur le tarmac jusqu'à cette main posée sur la Bible, a été quasiment chorégraphié par Johnson.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly and become the 36th President of the United States.
Johnson n'a probablement pas vu ces images de Walter Cronkite, le plus célèbre journaliste de CBS, enlever ses lunettes et apprendre au pays tout entier que Kennedy venait de succomber à ses blessures. Il est à l'hôpital Parkland quand il apprend la mort du président. Au moment de l'attentat, il était deux voitures derrière celle des Kennedy. Il a entendu les claquements secs, mais n'a pas compris ce qui venait de se passer. Maintenant, il sait. Il est conduit à grande vitesse jusqu'à l'aéroport où Air Force One est stationné et va directement dans la cabine privée du président. C'est de là qu'il appelle Robert Kennedy, qui n'est pas seulement le frère de JFK, c'est aussi l'attorney général, le ministre de la Justice. Les deux hommes se détestent depuis toujours. Robert Kennedy ne voulait pas de lui comme vice-président, il ne lui a jamais fait confiance. Dans la cabine présidentielle, Johnson a ce geste incroyable. Il enlève sa veste et s'allonge sur le lit du président sans retirer ses chaussures. C'est dans cette position qu'il appelle Bobby, qui a appris une heure avant seulement que son frère était mort. On me dit que face au risque de conspiration, je dois prêter serment immédiatement. Ai-je votre approbation ? Lyndon Johnson pense que Robert Kennedy lui a donné son accord. Kennedy, lui, est sûr qu'il a demandé à Johnson de ramener d'abord son frère à Washington. L'incompréhension va rester. Johnson décide de poursuivre ce qu'il a en tête. Entre-temps, le corps du président est arrivé. L'équipage n'a pas voulu le mettre dans la soute. On a donc brisé les poignées du cercueil pour le faire entrer dans la cabine principale. Jackie Kennedy, elle, s'est dirigée directement vers la cabine présidentielle. Elle n'a rien dit quand elle a vu Lyndon Johnson les pieds sur le lit en bras de chemise. C'est lui qui a insisté pour qu'elle soit à ses côtés lors de la prestation de serment. C'est lui aussi qui sciemment n'a pas fait vider l'avion. Entre les conseillers de Kennedy, les agents de sécurité, les assistants, les secrétaires, il y a bien 30 personnes agglutinées dans un tout petit espace. C'est aussi Johnson qui a fait entrer le photographe de la Maison-Blanche, Cecil Stockton, pour qu'il immortalise le moment. Lyndon Johnson avait bien l'intention de montrer qu'il venait d'entrer en fonction et qu'il avait désormais la main. D'ailleurs, une fois la courte cérémonie terminée, il a lancé en direction des pilotes, maintenant en route. Pendant ce temps, dans le pays, les journaux s'apprêtent à imprimer des éditions spéciales. Sur toute la une du Washington Post, on lit « Le président Kennedy a été assassiné à Dallas ». Deux photos, une en couleur des Kennedy, l'autre en noir et blanc de Johnson. Et voici ce qu'on lit sur le nouveau président des États-Unis.
Qui est donc ce Lyndon Johnson ? Lui qu'on surnomme LBJ et qui vit à la Maison Blanche dans l'ombre des Kennedy depuis déjà 2 ans. Originaire du Texas, il a grandi dans une famille pauvre et il avait choisi de devenir instituteur. Mais c'était sans compter avec sa passion pour le débat et les joutes verbales qui l'ont amené à plonger en politique à tout juste 22 ans. Élu en 1937 député démocrate de la 10e circonscription du Texas, il entrait dans le grand bain. Partisan du New Deal et des réformes, il siège dans plusieurs commissions, dont celle des affaires navales. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il devient sénateur, puis le leader du groupe démocrate au Sénat. Il fait alors preuve d'une remarquable habileté pour convaincre ses collègues à voter dans son sens, en dosant subtilement arguments et pressions, promesses et avantages. On le redoute autant qu'on le respecte. Johnson est un Texan, il a le phrasé gras et une détermination à toute épreuve.
Le phrasé gras, c'est le moins qu'on puisse dire. Johnson est un vrai Texan. Il est rude, volontiers vulgaire. Il revendique de n'avoir aucune manière. Il malmène son entourage. Il peut se comporter en tyran et bien pire. Mais c'est un animal politique. En 1960, fort de sa notoriété au Congrès, il imagine jusqu'au bout pouvoir remporter les primaires démocrates. Pendant la convention, il essaye de rassembler derrière lui sous la bannière Stop Kennedy, mais la machine du clan est trop bien huilée pour que l'investiture échappe à JFK. En revanche, pour gagner l'élection de novembre, Kennedy a besoin des voix du Sud. Johnson, le Texan, fera très bien l'affaire. En dépit de l'opposition répétée de Robert Kennedy, qui tentera de dissuader son frère jusqu'à la dernière minute. Le ticket Kennedy-Johnson l'emporte, mais aux yeux des Kennedy, il n'a jamais été question d'impliquer le vice-président dans les affaires du pays. Lyndon Johnson, qui était jusque-là le tout-puissant leader de la majorité démocrate au Sénat, se retrouve snobé par une famille qui le regarde de haut et lui-même lutte contre son syndrome d'infériorité qui n'arrange pas son caractère. Pendant 2 ans, le seul vrai plaisir de Johnson sera de s'occuper de la politique spatiale, un sujet qu'il passionne. Il est un peu plus de 20h sur la côte est lorsqu'Air Force One se pose sur la base aérienne d'Andrews, près de Washington. Des centaines de journalistes sont là, on a fait installer d'immenses projecteurs pour éclairer l'avion et pouvoir filmer la sortie du cercueil. Robert Kennedy est la première personne à monter à bord, Lyndon Johnson la première à débarquer. Devant les micros qui se tendent, ce sont ses premiers mots officiels.
Pour moi, c'est une tragédie personnelle très profonde. Je sais que le monde entier partage le chagrin de Madame Kennedy et sa famille. Je ferai de mon mieux. C'est tout ce que je peux faire. Je vous demande votre aide et celle de Dieu.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Deux semaines plus tard, Lyndon Johnson s'installe à la Maison Blanche. Une selle de cow-boy du Texas remplace le rocking chair de JFK. Johnson a compris qu'il devait atterrir en douceur, il conserve le cabinet de son prédécesseur et ses principaux collaborateurs. Malgré les relations exécrables qu'ils entretiennent l'un l'autre, le nouveau président conserve aussi à son poste le ministre de la Justice Robert Kennedy. C'est d'ailleurs en accord avec lui qu'il prend sa première décision de chef d'État. Il annonce la création d'une commission d'enquête indépendante sur l'assassinat de JFK, la fameuse commission Warren, qui conclura 1 an et 888 pages plus tard à la seule culpabilité de Lee Harvey Oswald. Et puis Johnson se met au travail, avec la brutalité qu'on lui connaît, son ego surdimensionné, en avant comme le tranchant d'une baïonnette. Il entend faire en 100 jours ce que son prédécesseur n'a pas fait en 1000 jours. Il a une force de travail considérable et une énergie invraisemblable. Il insulte, il engueule, il épuise tous ceux qui travaillent avec lui, y compris la douce Lady Bird qu'il a épousée quand elle avait 21 ans et à qui, fidèle à son caractère, il avait alors offert une bague de fiançailles à $2.50. Il est capable de mener plusieurs conversations à la fois. Johnson, pendu à ses nombreux téléphones, il rend les gens fous autour de lui. On raconte souvent qu'il prenait un malin plaisir à mettre ses interlocuteurs affreusement mal à l'aise en les obligeant à l'écouter parler alors qu'il était aux toilettes la porte ouverte. Certains de ses collaborateurs iront même jusqu'à solliciter l'avis de psychiatre à son sujet. Mais aussi ingérable et brutal soit-il, Johnson a une idée très précise de ce qu'il veut faire de sa présidence. Il a été très marqué par la crise des années 20, il a vu son père sombrer dans l'alcool faute de pouvoir rembourser ses dettes. Il a lui-même, dès ses 15 ans, ciré des chaussures ou fait la vaisselle dans des bars avant de se lancer en politique. Il pense qu'avant tout, le rôle des politiques, c'est de faciliter la vie du plus grand nombre. Il est rustre et impoli, mais il déteste l'injustice. Dans les semaines qui suivent sa prise de fonction devant le Congrès, le président Johnson commence par rendre hommage à son prédécesseur.
I would have given gladly not to be standing here today. The greatest leader of our time has been struck down by the foulest deeds of our time.
Tout ce que je possède, je l'aurais volontiers donné pour ne pas me trouver à cette place aujourd'hui. Le plus grand dirigeant américain de notre époque a été abattu par l'acte des plus abominables de notre temps.
À Washington, tout le monde sait que les Johnson détestaient les Kennedy et inversement. Mais Johnson se place intelligemment en héritier. Il explique qu'il va poursuivre les grandes orientations fixées par son prédécesseur. Et il amorce son projet de Great Society qu'il mettra particulièrement en avant lors de la campagne présidentielle de l'année suivante, en 1964. La Grande Société, c'est une sorte de New Deal qui doit parachever ce qu'avait entrepris Franklin Roosevelt 30 ans plus tôt. Un ensemble de mesures pour réduire la misère dans les villes, permettre un meilleur accès à la santé et à l'éducation et même protéger l'environnement. Si les Américains les plus pauvres et les plus de 65 ans ont aujourd'hui une assurance maladie publique, c'est grâce à Lyndon Johnson. Ici, lors d'une visite aux étudiants de l'Université d'État du Michigan en août 64, il déclare que sous son mandat, l'Amérique entre en guerre contre la pauvreté.
Beaucoup d'Américains vivent en marge de tout espoir. Certains à cause de leur pauvreté, d'autres à cause de leur couleur, et bien trop à cause des deux. Notre tâche est d'aider à transformer leur désespoir en opportunité. Cette administration, aujourd'hui, ici et maintenant, déclare une guerre inconditionnelle contre la pauvreté en Amérique.
L'autre grande réforme voulue par l'administration Kennedy, mais que Johnson portera à son terme, c'est la loi sur les droits civiques. Johnson ne peut pas admettre que son pays interdise encore aux Noirs les accès les plus élémentaires. Le texte prévoit entre autres la fin de la ségrégation dans les bâtiments publics et les écoles, l'interdiction de toute discrimination à l'embauche fondée sur la couleur de peau, l'origine, la religion ou le sexe. La bataille s'annonce rude, Kennedy s'y est déjà cassé les dents, représentant et sénateur républicain s'était allié aux démocrates des États du Sud pour lui barrer la route. Kennedy était certainement éloquent, mais Johnson, lui, connaît sur le bout des doigts les rouages de Washington. Il travaille tous les parlementaires au corps, les appelle un par un pour les convaincre ou les menacer. Il s'assoit même sur son amitié avec Richard Russell, qui fut un temps son mentor, sénateur raciste de Géorgie et chef de la minorité de blocage ségrégationniste. « Si nous échouons sur ce sujet, dit-il, nous échouons en tout. » Il va même jusqu'à demander le soutien de son ennemi juré, le ministre de la Justice, Bobby Kennedy, qui le lui donne. Nous sommes le 2 juillet 1964, après des mois d'efforts, dans le salon Lincoln de la Maison Blanche, Johnson vient de signer le Civil Rights Act en présence de Martin Luther King, à qui il donne l'un des stylos qui a servi à cette signature historique.
«
Mes chers compatriotes, je m'apprête à signer la loi sur les droits civiques de 1964. Son objectif est national et non régional. Son objectif est de promouvoir un engagement plus durable envers la liberté, une recherche plus constante de la justice et un respect plus profond de la dignité humaine. Fermons tous les ressorts du poison racial. Laissons de côté les différences absurdes et faisons nation ensemble. Hâtons ce jour où notre force incroyable et notre esprit sans limite seront libres de faire le travail juste et sage, ordonné par Dieu, le Père de nos âmes.
Nikki.
Him?
It's gonna be all right. It's gonna be all right. Go ahead.
Colin!
Go ahead, Nikki.
Un mois plus tard, dans la nuit du 2 au 3 août 1964, à 12 000 km de là, dans les eaux du golfe du Tonkin, un destroyer de la Navy, l'USS Maddox, alors en mission secrète, est la cible de tirs venus de trois vedettes lance-torpilles nord-vietnamiennes. Le lendemain, nouvel incident, deux destroyers sont contraints d'ouvrir le feu sur des vedettes fantômes. Ces événements viennent rappeler à l'Amérique cette guerre lointaine et jamais déclarée que Kennedy avait officieusement entamée par l'envoi en 1961 de 15 000 conseillers militaires. Lyndon Johnson n'aime pas cette guerre. Même s'il a assuré le gouvernement sud-vietnamien de son soutien total contre le communisme et que dès la fin de l'année 63, il a fait planifier les bombardements sur le Nord-Vietnam. Mais l'incident du golfe du Tonkin est très médiatisé et Johnson en fait une affaire personnelle. Surtout, il se retrouve obligé de rendre publique l'implication active des États-Unis dans le conflit, ce qui n'était pas son intention. Il demande et obtient du Congrès les pleins pouvoirs pour diriger l'effort militaire sur place. La guerre du Vietnam devient sa guerre, son obsession. Corentin Célin, ce qu'on voit déjà, ce qu'on apprend de Lyndon Johnson, c'est, on en parlait déjà tout à l'heure, sa très grande maîtrise du Congrès. Il se bat pour des idéaux qui sont très progressistes, il arrive à les faire passer tout de suite, en tout cas il se bat tout de suite pour ça.
Oui, c'est toujours ce qui a caractérisé sa carrière et dès le début, c'est la contradiction entre des méthodes formelles qui ne sont pas toujours dans les règles, y compris pour être élu. Hein, il est élu au Sénat avec une énorme tricherie lors de la primaire démocrate, mais... ensuite, c'est toujours au service d'un agenda progressiste et résolument progressiste. Lyndon Johnson est vraiment dans la droite ligne de Franklin Roosevelt. C'est un homme, c'est un progressiste attaché à prolonger et à amplifier l'héritage de Roosevelt. Et il y arrive d'autant mieux, justement, qu'il a cette maîtrise, même par des moyens parfois contestable, de l'art parlementaire.
Alors, il y a quand même une chose qui va nous amener doucement vers nos comparaisons habituelles avec Donald Trump à la fin du récit, c'est ce caractère terriblement borderline. Il maîtrise pas beaucoup son langage, visiblement, Johnson.
Non, mais ça a une cause qui est très différente de l'actuel président Trump, puisque Lyndon Johnson travaille entre 18 et 20 heures par jour, et même avant la Maison Blanche, il dort extrêmement peu. Ce qui inquiète d'ailleurs ses proches, parce qu'il faut rappeler qu'il avait fait une crise cardiaque dans les années 1950. C'est ce travail ininterrompu et cette fatigue que l'on peut supposer qui l'amène souvent à effectivement des comportements très étranges, assez singuliers, comme le fait par exemple de commencer également ses réunions alors qu'il est encore en train de faire sa toilette. Et aussi, on s'en souvient, sa manie d'employer le téléphone pour un oui, pour un non. Il passe sa vie au bureau, à faire de la politique et visser à son téléphone.
Il paraît que c'est le premier à avoir eu un téléphone dans sa voiture, Lyndon Johnson.
Oui, absolument. Et aussi, on sait aussi que c'est lui qui a utilisé ce système d'enregistrement des conversations qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de ces conversations qui sont archivées, disponibles d'ailleurs sur Internet, et qui livrent un compte-rendu absolument fantastique de ce qu'a pu être sa présidence.
Alors, avec quand même une inquiétude de la part de ses collaborateurs, et ça aussi, peut-être que ça nous ramène à notre période actuelle, puisqu'on va jusqu'à interroger des psys quand même sur l'état de Johnson.
Oui, sauf que là, dans le cas de Johnson, c'est parce qu'il travaillait trop. On craignait un burn-out, ce qui ne caractérise pas Donald Trump, dont on sait que les journées sont assez aérées, on va dire, en termes d'obligations officielles. Mais ça caractérise surtout un homme qui vivait la politique comme une sorte de mission et comme quelque chose qui l'emportait sur tout le reste. Johnson ne faisait que de la politique 24 heures sur 24. Et là aussi, c'est très différent de ce que peut être aujourd'hui Donald Trump, qui est aussi un homme de spectacle, qui est un homme avec beaucoup de préoccupations. Johnson, il pense, il mange, il boit politique 24 heures sur 24.
Mais c'est peut-être pour ça qu'il vit tellement mal ce qui va se passer dans les mois et les années qui suivent au sujet du Vietnam. Et on y viendra dans un instant. There's an old friend that I want to say something that touched my heart, and it began this way. Just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. Too hard living, but I'm afraid to die.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique sur France Inter.
One, two, three, four, five, seven, six, eight, nine.
Ten, nine, eight, seven. Six, five, four, three, two, one, zero.
These are the stakes.
Le voici l'enjeu. Faire un monde où chaque enfant de Dieu peut vivre ou entrer dans l'obscurité. Soit nous nous aimons les uns les autres, soit nous mourrons.
Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home.
Cette publicité est connue comme la Daisy Girl, la petite fille à la marguerite. Elle n'a été utilisée qu'une fois, mais son impact a été considérable. Une fillette arrache les pétales d'une marguerite à la fin de son décompte, approximatif mais touchant, le bruit de l'explosion est celui d'une bombe atomique. En cet automne 1964, Lyndon Johnson mène sa bataille pour sa réélection contre le républicain Barry Goldwater. Et derrière cette publicité, il sous-entend que son adversaire est prêt à lancer une bombe A sur le Vietnam, ce que Goldwater avait en effet suggéré. Le républicain est à cette époque un ségrégationniste, il est aussi fermement opposé à l'intervention de l'État, il ne fait pas l'unanimité dans son propre parti qu'il a conquis par la droite. Johnson, lui, se présente comme le garant de la sécurité de l'État, et surtout il va pouvoir enfin se défaire de l'ombre des Kennedy qui n'avait jamais cessé de planer au-dessus de la Maison-Blanche. D'autant qu'il n'a pas eu à affronter une primaire contre Robert Kennedy, qui, un instant hésitant, a préféré le Sénat. Le 8 novembre 64, Johnson est réélu, très confortablement, avec plus de 61% des suffrages. C'est la plus grosse victoire d'un président américain depuis 1820, 44 États sur 50, et donc une majorité absolue et inédite au Congrès. Johnson est aussi le premier président américain issu d'un État qui, 100 ans plus tôt, avait choisi la sécession. Il a donc les mains totalement libres pour poursuivre sa politique de réforme. Après les droits civiques, il veut s'attaquer au droit de vote des Noirs américains et présente le Voting Rights Act dès le début de l'année 65. Parmi les villes où la tension est la plus forte, Selma, en Alabama. La population noire représente 35% de la ville, mais seuls 2% des électeurs votent parce que leur inscription sur la liste électorale est rendue volontairement complexe.
Monsieur King, bonjour. Une déclaration, s'il vous plaît.
Bonjour.
Bonjour.
Tant que continuera cette violence haineuse dirigée contre la population sans défense de Selma, tant que ces gens seront attaqués à coups de grenades et de matraques comme un ennemi dans une guerre, aucun citoyen américain ne doit se considérer comme complètement innocent, car nous portons tous une part de la responsabilité de nos frères humains. J'en appelle à tous, femmes et hommes de bonne volonté, gens de foi d'où qu'ils viennent, noirs, blanc ou de toute autre race, si vous pensez que tous les hommes ont été créés égaux, venez demain, Selma. Rejoignez-nous. Rejoignez notre marche contre l'injustice et contre l'inhumanité. Nous comptons sur votre soutien.
If you see me walking down the street and I start to cry, each time we meet, walk on by, walk on by, make believe you don't see the tears, just let me grieve in private, cause each time I see you, I break down and cry, walk on by. Broken and blue, walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye.
Must see. Riots do not develop out of thin air. Certain conditions continue to exist in our society. It must be condemned as vigorously as we condemn riots. In the final analysis, a riot is the language of the unheard.
C'est là que le 7 mars 1965 se tient la fameuse marche Selma Mogombri. Sous l'œil des caméras de télévision, la protestation pacifique est dispersée à coups de matraque. Le monde entier verra des policiers à cheval frapper des hommes et des femmes à terre et laisser une centaine de blessés sur le pont qui enjambe l'Alabama. Johnson est furieux. Le gouverneur de l'État, George Wallace, un raciste patenté, refuse de protéger la deuxième marche, deux jours plus tard, qui se termine elle aussi par des incidents. C'est Johnson lui-même qui ordonnera à la garde nationale d'Alabama sous mandat fédéral et au FBI d'encadrer une troisième marche le 21 mars. Entre-temps, devant le Congrès, Johnson prend les représentants républicains et démocrates à témoin. Son discours American Promise, la promesse de l'Amérique, sera l'un des moments les plus forts de sa présidence. Nous sommes le 15 mars 1965.
We cannot...
Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas refuser de protéger le droit de vote de tout Américain dans toute élection à laquelle il aurait le désir de participer. Je demande donc de vous joindre à moi pour de longues heures, de longues nuits et des week-ends si c'est nécessaire afin de voter cette loi. Même si nous votons cette loi, la bataille ne sera pas finie. Ce qui s'est passé à Selma fait partie d'un mouvement bien plus vaste qui touche chaque section et chaque État de l'Amérique. C'est l'effort des Noirs américains qui entendent bénéficier pour eux-mêmes de toute l'étendue du rêve américain. Leur cause doit être la nôtre, parce que ce n'est pas que les Noirs, c'est vraiment nous tous qui devons surmonter l'héritage paralysant du sectarisme et de l'injustice. Nous vaincrons.
Le Congrès fait silence lorsque le président reprend dans sa voix le slogan du mouvement des droits civiques « We shall overcome ». Nous vaincrons. Tonnerre d'applaudissements et pari gagné pour Johnson. Cinq mois plus tard, il signe le Voting Rights Act. Et pourtant, dans les jours qui suivent, le quartier noir de Watts, à Los Angeles, rongé par la pauvreté et la criminalité, est secoué par la plus violente émeute raciale qu'ait connue le pays. Six jours de troubles, plus de 4000 arrestations, une cinquantaine de morts. Johnson Effaré aura cette phrase, comment est-ce possible après tout ce que nous avons accompli ? D'un simple engagement limité au début des années 60, l'Amérique du président Johnson de 1966 joue désormais un rôle majeur dans le conflit qui oppose le Nord et le Sud Vietnam. Des 15 000 conseillers militaires de Kennedy, on est passé à 165 000 soldats et puis 200 000. Les États-Unis multiplient les raids et les assauts contre les poches de résistance du Viet Cong. On utilise des bombes à fragmentation, des explosifs chimiques, du napalm et la presse est là pour en témoigner. L'opinion publique commence à tanguer et Johnson refuse de céder. Il multiplie les déclarations pour justifier l'engagement des boys, comme ici, dans une université de Virginie.
Ce soir, je suis venu ici vous parler du Vietnam. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que notre population est très concernée par ce conflit. Nombreux sont les Américains patriotes et sincères qui partagent leurs doutes sur cet engagement, auquel trois présidents déjà et un demi-million de nos jeunes hommes ont participé. S'il y a des doutes ou un débat, c'est que le problème du Vietnam est assez complexe, car c'est l'arène où l'expansion communiste est actuellement la plus agressive dans le monde.
De ce que j'en sais, il règne sur place au Vietnam un climat de confiance et d'optimisme au sein de nos troupes. La victoire se rapproche. Cette phrase, le président américain va la prononcer 14 fois dans les derniers mois de 1966, pendant que l'Amérique voit revenir les cadavres de ses jeunes soldats et qu'à Saigon, le chef des forces américaines, le général Westmoreland, réclame toujours plus d'hommes et plus de matériel. Avec l'offensive du Tet en janvier 1968, l'opinion publique américaine bascule définitivement. Plus d'un Américain sur trois considère désormais que Lyndon Johnson est le grand responsable de cette déroute. Les protestations se multiplient dans toutes les grandes villes. Devant la Maison-Blanche, les manifestants sont chaque jour plus nombreux. Et au sol, ils ont déployé une banderole sur laquelle on lit « Yeah, Lyndon Johnson, combien d'enfants vietnamiens vas-tu tuer aujourd'hui ?» Johnson va hésiter longtemps, mais il comprend que pour lui c'est fini. Il était parti pour tenter sa réélection, mais après une piètre prestation dans le New Hampshire, il renonce dans un discours à la Nation le 31 mars 1968. Il annonce qu'il ne se représente pas, mais surtout, il proclame la fin des bombardements au Nord-Vietnam et l'ouverture sans condition de négociations avec les représentants communistes. Les jeunes avaient raison, j'ai tout raté, dira-t-il plus tard à sa biographe. Ces dernières années, Johnson a traîné sa dépression dans sa retraite texane. Il s'est remis à fumer et à manger gras, aux grandes dames de ses médecins. Il s'est laissé pousser les cheveux et a troqué ses costumes sombres pour des chemises à fleurs. Avant de mourir en 1973, il rencontrera quelques journalistes à qui il dira qu'au fond, il a toujours douté des conclusions de la commission Warren.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique sur France Inter.
I'm a ghost.
France Inter.
President of the United States.
Presidents. Ces présidents qui racontent l'Amérique. Fabienne Sintès.
Corentin Célin, notre historien, notre accompagnateur tout cet été. Notre petit exercice favori est régulier, Corentin, comme d'habitude. Lyndon Johnson, alors sur l'échelle de Trump?
Une très mauvaise note, car il n'y a aucun point commun entre ces deux hommes, aussi bien sur les origines que le parcours. On a rappelé que Johnson était d'abord un grand parlementaire, et surtout aucun point commun sur les idées, sur les doctrines. Johnson reste encore aujourd'hui un des derniers, sinon le dernier grand président progressiste d'une gauche rooseveltienne, keynésienne. Mmh. Et évidemment, par rapport, au libéralisme de Trump, cela n'a absolument rien à voir.
Alors, il y a quand même une chose qui est intéressante et qu'on verra peut-être après avec Donald Trump, lorsqu'il partira, s'il part, que ce soit maintenant ou plus tard. Quand Johnson s'en va, il part totalement déprimé, ce monsieur. Il part très vite avec une espèce de conscience d'une présidence qui s'est plantée, en fait. Alors qu'on a l'impression, avec le président actuel, au contraire, que déjà, il est en train d'essayer de bâtir une narrative sur son après.
Oui, c'est tout à fait exact. Ce qui frappe dans la personnalité de Johnson, c'est à la fois, on l'a vu, ce côté rude, brutal, mais qui était toujours mis au service de grands idéaux, et en particulier, évidemment, la recherche de l'égalité raciale aux États-Unis. Et il y a chez lui ce remords très très fort, et qui l'amène à un sentiment effectivement presque dépressif à la fin de sa vie, d'avoir compromis tout cela à cause de la seule guerre du Vietnam. Il ne le comprend pas, mais en même temps, il le reconnaît en ne se représentant pas. Il reconnaît qu'il a échoué. Et ça, effectivement, c'est un point commun très fort avec Donald Trump, dont qui ne reconnaît jamais, lui, ses fautes, mmh. qui ne reconnaît jamais ses erreurs. Et là, vraiment, on a aussi une très nette divergence entre les deux hommes.
Alors, ce que je vois aussi, mais vous m'arrêterez si je me trompe, c'est si on compare, en fait, les deux époques, on a l'impression, au fond, en lâchant là l'Amérique de Lyndon Johnson, que on est dans certains schémas qui peuvent être très similaires. Les questions qu'il a essayé de régler, lui, notamment sur les droits civiques des Noirs, sur leur droit de vote, est-ce que ce ne sont pas les mêmes, au fond, qu'on voit ressurgir aujourd'hui, même s'ils ont, fort heureusement, leur droit de vote et leurs droits civiques?
Mais absolument, il faut se rappeler que lui-même avait commandité un rapport resté célèbre, mais malheureusement sans grande suite, le rapport Kerner, à la suite des premières émeutes raciales. Et effectivement, aujourd'hui, l'Amérique de 2020 réfléchit à partir des bases qu'a fondé Lyndon Johnson, et peut-être de retrouver un nouveau compromis progressiste pour enfin obtenir cette égalité raciale. Mais il n'y a pas que la question de l'égalité entre les Blancs et les Africains-Américains. C'est aussi Lyndon Johnson qui, avec le Medicare et le Medicaid, avec ses assurances santé publique, a lancé cette idée que tout Américain, un jour, pourrait avoir enfin le droit à une assurance santé publique. Et on voit bien que c'est le débat sur l'Obamacare tend aujourd'hui à reprendre. Est-ce qu'on ne peut pas enfin aller vers une assurance santé universelle, publique, pour tout un chacun?
Corentin Célin, qui se réclame aujourd'hui de Lyndon Johnson? On voit bien qu'il porte sa croix, il l'a portée pendant longtemps. Est-ce qu'il a été réhabilité? Est-ce qu'on a fini par le regarder différemment, ce monsieur?
Oui, il est réhabilité au sens où il est considéré aujourd'hui, dans les études que font les politistes, comme un grand président, mais pour les démocrates, ce n'est plus une figure actuelle, pour une bonne et simple raison, c'est que le Parti démocrate a complètement changé à partir de la fin des années 80, au début des années 1990, en se ralliant à la troisième voie, social-libérale, centriste, en abandonnant les grandes dépenses, les grands projets rooseveltiens, en souscrivant aussi au dogme conservateur de la baisse des impôts, alors que Johnson, c'est tout le contraire, c'est les grands programmes, les grandes dépenses publiques, les grandes ambitions, et de ce point de vue-là, aujourd'hui, et aussi, bien sûr, à cause de l'héritage du Vietnam, ce n'est plus une référence souvent mobilisée par les démocrates.
Corentin Célin, quand on regarde cet héritage qui est difficile, y compris pour les démocrates, donc à endosser, on se dit que c'est peut-être la même frayeur que celle de Trump aujourd'hui. Est-ce qu'un événement dans sa présidence, et peut-être qu'il a lieu en ce moment, ne va pas écraser, effacer tout le reste, et laisser un héritage qui sera épouvantable pour lui?
Oui, c'est une question pour laquelle Johnson est un véritable modèle, puisqu'il faut rappeler que ça a été un président extrêmement populaire, élu en 1964 triomphalement, et que tout a basculé sur la guerre du Vietnam, qui l'a rendu inéligible en 1968. Et aujourd'hui, on a un peu le même phénomène avec un Donald Trump qui avait un bilan économique, alors certes à nuancer, mais avec un chômage extrêmement bas, et tout cela a été d'un coup et d'un seul détruit par la Covid-19, et on sent bien la hantise chez Donald Trump de rester pour les générations futures le président de la Covid-19 et non plus le président d'une formidable prospérité dans la première partie de sa présidence.
Merci beaucoup, Corentin Célin. Lyndon Johnson, président maudit, un épisode à réécouter en podcast et sur le site de France Inter. Et merci aussi à ceux qui ont prêté leur voix à ce récit. Merci à Eric Oswald et à Philippe Pierrard. Et merci à Djoubaka, le programmateur musical de la série.